je m'appelle Marielle et grâce à mon travail, je donne des cours de français à des adultes étrangers. J'ai le plaisir de rencontrer des personnes venant de pays différents, vivant depuis peu d'années en France. Et parce qu'on entend beaucoup parler d'elles dans les médias en des termes génériques, mais qu'on les entend peu parler d'elles de façon directe et individuelle, j'ai eu envie de leur donner la parole pour qu'elles nous racontent leur parcours et leur vie ici, qu'elles nous parlent de leur pays d'origine et de la France. Et je leur ai proposé aussi de nous faire écouter une musique de là-bas et une musique d'ici qu'elles aiment particulièrement.
Je m'appelle Martial Coré, je suis ivoirienne et j'ai 50 ans. Et je suis arrivée en France le 1er août 2022. Depuis 2022, je suis en France. Maintenant, j'habite à Châlons, en Champagne, dans la résidence à Doma précisément.
Est-ce que tu travailles ?
Bon. J'ai travaillé, mais présentement, je ne travaille plus parce que depuis le 13, mon contrat a pris fin.
D'accord.
J'ai travaillé à Mouette et Chandon avec la société en Talion, mais pour le moment, en ce moment, je ne travaille pas.
D'accord.
Ouais. Alors, c'est la recherche, je travaille.
Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire, Martial, pourquoi tu es parti de Côte d'Ivoire ?
Bon, je suis parti de Côte d'Ivoire. Bon, c'est une histoire, bon, une histoire de famille. Et depuis 14 ans, j'ai été donnée en mariage. Et dans ce mariage, vraiment, je n'avais pas la paix. Et en 2000, j'ai eu 4 enfants dans ce mariage, 19 ans de mariage. Dans ce mariage, j'ai fait 19 ans avec mon homme. Bon, si je dis que je ne l'aimais pas, bon, c'est trop de fort, mais bon, c'était un mariage forcé en quelque sorte. Donc, je n'étais pas tranquille. Jusqu'en 2008, il est décédé. Mm-hmm. Et quand il est décédé, m'ont proposé un autre mariage avec le grand frère de cet homme, du père des enfants. Mm-hmm. Et j'ai refusé, c'était vraiment un calvaire. Et je voulais pas de ce mariage, donc j'étais maltraitée, souvent battue. Et j'en avais marre. Donc c'est ainsi que j'ai décidé de quitter la Côte d'Ivoire.
D'accord. Donc tu es partie de Côte d'Ivoire en quelle année ?
Je suis partie de Côte d'Ivoire le 9 octobre 2016.
D'accord.
Pour aller en Tunisie.
Et oui, est-ce que tu peux raconter un peu ton parcours jusqu'à ton arrivée en France, les pays que tu traversais ?
Je suis allée en Tunisie en 2016. Je suis restée en Tunisie pendant 6 ans. Mm-hmm. 6 ans de vraiment une vie aussi pas facile. J'ai mené une vie vraiment pénible là-bas, mais bon, j'étais allé en Tunisie sans connaître la vie de là-bas, mm-hmm. Mais arriver là-bas, c'était vraiment difficile. C'était difficile, mais bon, j'ai supporté parce que j'ai tenté de traverser à plusieurs reprises et j'ai fait un échec. Ça ne réussissait pas, bon.
Traverser
pour venir en France.
D'accord.
Parce que là-bas, quand tu arrives en Tunisie, c'est un peu difficile. Quand tu arrives, tu as 3 mois de... Comment on appelle ? 3 mois de visa. Après les 3 mois, tu paies une pénalité sur le sol tunisien.
D'accord.
Si tu veux repartir dans ton pays, tu dois payer le temps que tu as fait sur la Tunisie avant de partir. Bon, le salaire aussi était petit. On en paye que tu as au moins... Et si tu as trop, 100 euros... Le salaire, ça ne pouvait rien faire. Et je ne pouvais pas retourner dans mon pays vu ce qui m'attendait là-bas aussi.
D'accord.
Voilà. Et la vie de Tunisie aussi, je n'en pouvais plus. Et les gens comme ça, les gens m'ont parlé de la traversée. On pouvait traverser pour aller en France. Je n'avais pas le choix, en fait. Mm-hmm. Je n'avais pas le choix. Je ne pouvais plus rester en Tunisie parce que c'était difficile. Et je ne pouvais pas retourner aussi en Côte d'Ivoire. Donc, je n'avais pas le choix.
D'accord.
C'est ainsi que j'ai décidé de traverser pour venir en France.
D'accord. En Tunisie, tu connaissais des personnes ? Quand tu es allée en Tunisie, est-ce qu'il y avait des gens que tu connaissais là-bas, non ?
Bon, que je connaissais depuis la Côte d'Ivoire ?
Oui.
Non.
Non, pas du tout ? D'accord.
Parce que là-bas, je travaillais chez le patron, c'est là que je dormais, je ne connaissais pas. J'ai croisé des gens là-bas que j'ai connus, mais que je ne connaissais pas forcément à partir de la Côte d'Ivoire.
D'accord. Et alors, quand tu es arrivée en France, comment ça s'est passé, les différentes étapes pour t'installer? Qu'est-ce qui a été vraiment difficile? Qu'est-ce qui t'a aidé?
Bon, je suis arrivée en Italie d'abord. J'ai fait 2 semaines en Italie. Bon, là-bas, c'était à Lampedusa, c'était pas... C'est sur une île.
Oui.
Là, c'était aussi... C'était un peu compliqué. Bon, vu que mes amis aussi... J'ai des amis que j'avais connus dans le bateau qui venaient sur la France.
Parce que donc, tu as réussi à traverser de la Tunisie jusqu'à Lampedusa.
Jusqu'à Lampedusa,
d'accord.
Oui.
En bateau.
En bateau, oui. Les petits bateaux, les zodiacs gonflables.
Oui, ok.
C'est avec ça que j'ai traversé.
Tu as fait plusieurs tentatives avant de réussir.
Oui. C'était pas facile. La traversée était vraiment difficile. On a fait 3 jours sur l'eau.
Mm-hmm.
C'était vraiment compliqué, mais bon Dieu merci, on a pu traverser.
Oui.
Arrivé en Italie aussi, j'ai traversé avec des camarades, des amis que je connaissais, qui venaient en France.
Mm-hmm.
Bon, en Italie, c'était un peu compliqué parce que là, la vie était vraiment... Donc, elles m'ont proposé, on peut partir en France. Vu que moi, je ne connaissais personne en France, mais bon.
Oui.
Je me suis dit, en France, au moins, comme j'arrive à parler, on peut me comprendre facilement.
Oui.
En Italie, il faut apprendre la langue, c'est compliqué.
Et donc, en Tunisie aussi, j'imagine.
En Tunisie aussi, c'est compliqué.
Oui.
Donc, j'ai décidé de venir en France avec les amis.
Mm-hmm.
Et c'est ainsi qu'on est venu en France. Arrivé à la gare de Lyon, chacun a pris sa route. Chacun est allé dans son... Moi, je ne connaissais personne. Donc, je suis restée à la gare de Lyon. J'ai fait 2 jours à la gare de Lyon.
Oui.
Et je me suis renseignée par rapport à la demande d'asile. Et comme ça, ils m'ont donné des adresses pour aller à Terre d'asile. Et j'ai demandé l'asile.
Terre d'asile, tu peux expliquer ce que c'est?
Terre d'asile, c'est en quelque sorte un endroit où on peut aller pour demander l'asile pour... Quand tu connais personne dans le pays, tu vas, comme tu expliques...
Mm-hmm.
Voilà. Eux, à leur tour, ils peuvent t'aider,
mm-hmm.
soit à te loger, en attendant la demande ta demande,
oui.
te donner un logement, te donner un endroit pour dormir quand tu ne connais personne.
Oui.
Donc, je suis allée, j'ai expliqué mon problème. Ils m'ont dit, OK, qu'il n'y a pas de place sur Paris, mais je devais aller à Nancy à 6 heures de Paris.
Oui.
C'est ainsi que je suis allée à Nancy. Je fais 1 mois à 115 de Nancy.
Oui.
Et après 1 mois, ils m'ont ramené à Épernay, à Doma, là où j'ai fait 2 ans pour la demande d'asile.
D'accord. À Doma, tu peux expliquer ce que c'est?
À Doma...
C'est une structure à Épernay.
Oui, à Épernay.
Qui propose des logements, c'est ça, pour les
Ils proposent des logements et puis ils ont aussi des hébergements pour ceux qui font la demande d'asile aussi.
D'accord.
Mmh. Ils hébergent ceux qui font la demande d'asile.
D'accord.
Donc, j'étais au foyer. C'est un foyer.
Ouais.
Un foyer à Doma. C'est là que j'ai fait ma demande d'asile. J'ai fait 1 an 9 mois.
Oui.
Et le 16 décembre 2024, j'ai eu la protection internationale. Et c'est ainsi que je suis allée en résidence à Châlons, en Champagne.
D'accord.
Ouais.
Oui, c'est tout récent.
Ouais.
Donc, tu as eu la protection internationale, là, en décembre dernier.
Oui, le 16 décembre 2024, là.
D'accord.
Ouais.
Une bonne nouvelle.
Ouais.
D'accord. Donc, tu dirais, qu'est-ce qui a été le plus difficile et qu'est-ce qui t'a aidé quand tu es arrivé? Parce que la langue, déjà, c'était pas un frein, comme tu disais tout à l'heure, c'était plus
langue,
un obstacle.
La langue, déjà, ça allait.
Oui.
Mais ce qui a été un peu difficile, je suis arrivée sans connaître quelqu'un, je suis arrivée comme ça,
oui,
je connaissais personne.
Seule.
C'était un peu difficile pour moi, mais bon, comme au moins je pouvais m'exprimer, je pouvais me renseigner, mais en Italie, c'était pas le cas.
Oui.
Je pouvais pas parler la langue, et quand tu parles français, il te répond en italien, c'est compliqué.
Oui, parce que tu ne connaissais pas d'autres langues.
Je ne connaissais pas d'autres langues à part français. Donc, quand je suis arrivée ici, avec la langue, c'était un peu facile.
Oui.
J'ai pu me repérer vite.
Mm-hmm.
Donc, je trouve que ça m'a aidé beaucoup.
Oui.
Parce que d'abord, la langue m'a beaucoup aidé. Mais après, la demande d'asile, c'était un peu compliqué.
Oui,
au foyer, ce n'était pas facile. On vivait dans un appartement, trois chambres, chacun avait une chambre, mais d'origine différente. Il y avait des Albanais, des... bon, c'était pas facile.
Oui, la cohabitation à plusieurs.
À plusieurs, c'était pas facile.
Oui.
Fallait gérer le tempérament des autres. Bah bon, c'était pas facile. On avait la même cuisine.
Une grande colocation.
Les mêmes salles de bain, c'était pas facile, mais bon.
Ça s'est plutôt bien passé, oui.
C'était bien passé parce que là, au moins, tu as un toit où tu peux dormir.
Tu n'es pas toute seule.
Tu n'es pas toute seule, donc... Vraiment, c'était, le stress était beau. Quand tu penses au papier, le stress, j'ai fait vraiment plusieurs crises d'hypertension.
Ouais.
Il m'a conduit aux urgences plusieurs fois, mais bon.
Parce que tu avais, oui, des coups de stress, des coups de panique.
Ouais. C'était un peu compliqué, mais bon, j'ai supporté.
Et après le foyer, tu es...
Maintenant, en résidence à Doma.
Ah oui, c'est ça, après à résidence.
À Chalon-Champagne.
Oui. Mais je veux dire, provisoire. Après que tu sois arrivée et que tu as vécu en foyer jusqu'à Chalon, jusqu'à ce que tu partes à Chalon ?
Oui.
D'accord.
Oui.
Ah oui, ça a duré quand même un moment.
Oui, oui.
D'accord.
Jusqu'à ce que je parte à Chalon.
D'accord.
Là-bas, c'est une résidence provisoire. En attendant qu'on trouvait mon appartement et qu'ils ont trouvé maintenant l'appartement sur Épernay.
D'accord.
Jusqu'à fin novembre, je vais aller dans mon appartement.
D'accord, très bien. Est-ce que tu peux parler un peu des démarches pour justement toutes les démarches pour être pour avoir réussi à avoir la protection internationale? Ça a duré longtemps?
Oui, ça a duré longtemps parce que quand tu arrives d'abord, quand tu passes par un pays de comment on appelle?
Quand tu passes par un autre pays avant, tu es dubliné, c'est ça?
Voilà.
Oui.
Tu es sous Dublin d'abord. J'ai fait 9 mois.
Oui.
Sous Dublin, je suis restée là.
Parce que donc tu veux expliquer? Qu'est-ce que ça veut dire?
Le Dublin.
Ouais.
Et il y a les pays, comment on appelle les pays?
Le premier pays où tu es enregistré en tant que demandeur d'asile.
Il y a un ensemble de pays là, européens.
Mm-hmm.
J'ai oublié le nom. Mais quand tu es descendu dans l'un de ces pays,
oui.
On te dit que tu es sur Dublin parce que le pays là où tu es descendu, eux, ils ont déjà tes références là-bas.
Oui, ils et ont déjà enregistré ta demande.
Donc,
ouais.
Il faut d'abord demander l'avis de... du pays là où tu es descendu.
Du premier, pays d'accueil. Ouais.
Voilà, s'ils sont d'accord.
D'accord.
Là, le pays où tu es, ils peuvent prendre maintenant en compte tes dossiers.
D'accord.
Donc, ça prend du temps.
Oui, donc toi, pour toi, ça a d'autant plus prise de temps parce que le premier pays, c'était la Tunisie.
Italie.
Ah, c'était l'Italie. Oui.
C'était l'Italie d'abord.
Premier
donc, il fallait
d'Europe.
Que l'Italie donne son accord
pour
que la France puisse prendre mes documents.
D'accord.
Donc, je suis restée là à attendre 9 mois. Après 9 mois, ils m'ont dit que mon doublet était fini.
Oui.
Et maintenant, j'étais sur normal. Maintenant, à partir de là, après 9 mois, c'est en ce moment qu'ils ont commencé à étudier mon dossier.
D'accord.
Et après l'étude des dossiers, tu donnes ton histoire, tu écris l'histoire et l'histoire va à l'OFI, à l'OFPRA.
Oui, donc et ça, c'est l'Office français de protection,
Des
apatrides, des réfugiés, des apatrides.
Oui. À l'OFPRA. Quand l'histoire va à l'OFPRA, à l'heure tout, ils te convoquent pour aller maintenant, parce que l'histoire est déjà là-bas, donc aller maintenant t'exprimer, ils vont t'écouter.
Oui.
Et après, la décision vient de s'ils donnent la protection ou pas.
D'accord.
Donc, je suis passée à l'OFPRA et...
Ça, c'était il y a combien de temps, le passage devant l'OFPRA?
C'était tout en 2020. C'était dans la même année 2024, mais c'était en juillet.
D'accord.
Angers, je suis passée à l'OFPRA, bon, ça n'a pas marché. C'était un refus.
D'accord.
Bon, après le refus, tu as encore une deuxième tentative sur la CNDA.
D'accord. Alors ça, c'est la cour...
CNDA.
Faudrait que je révise les sigles.
Ouais.
La Cour nationale des demandeurs d'asile, peut-être, quelque chose comme ça.
Bon,
à vérifier.
Ouais. Donc, je suis passée à la CNDA, là, tu passes devant le juge et on étudie la même histoire encore.
Oui.
Et tu t'exprimes encore parce que peut-être qu'à l'OFPRA, il y a des trucs que tu n'as pas bien expliqué, qui n'ont pas bien compris.
Mmh.
Donc, il faut encore expliquer pour approfondir les recherches. Donc,
d'accord,
comme ça,
c'est le deuxième organisme devant lequel on passe. Si à l'OFPRA, il y a un refus,
il y a un refus.
C'est devant la CNDA qu'on peut faire un recours.
Voilà, un recours.
D'accord.
Donc, j'ai fait le recours, je suis allée à la CNDA. Et bon, il y avait... Et il y a deux procédures. Il y a la procédure normale et la procédure accélérée.
D'accord.
Moi, j'avais la procédure accélérée. Quand c'est la procédure accélérée, c'est un seul juge qui t'écoute.
Ouais.
Tu parles, bon, il analyse
ouais.
et il décide. Si c'est oui, c'est oui. Si c'est non, c'est non.
D'accord. La protection.
Quand c'est la procédure normale, il y a au moins 3 ou 4 juges qui analyse ton histoire. L'autre, bon, si parmi les quatre, s'il y a trois qui sont d'accord, ça va.
D'accord.
S'il y a deux qui sont d'accord, bon, ça
va. Et deux qui ne sont pas d'accord.
Ça, il faut encore un autre recours.
D'accord.
Voilà. Mais moi, c'était un seul juge.
OK.
Un seul juge et la réponse, donne la réponse dans une semaine.
D'accord.
Donc, je suis allée le 9 décembre devant le juge. Bon, ça s'est bien passé. Elle m'a écouté. C'était une femme, elle m'a écouté. J'ai parlé. Et le 16, j'ai eu la réponse pour dire que j'avais la protection. J'avais eu 10 ans. J'avais la protection internationale. C'est comme ça que ça s'est passé.
D'accord. Ouais. Ça a dû être une longue semaine d'attente.
Oui.
En attendant la réponse.
Dans la réponse, vraiment, ça aussi, j'étais vraiment stressée. Je suis tombée malade, mais bon.
Oui, bah oui, j'imagine. D'accord. Bon. Et comment ça se fait que toi, c'était procédure accélérée et pas procédure normale? Parce que t'avais été dublinée? Non, c'est quoi le... Pourquoi on peut avoir quatre juges et pourquoi on peut avoir un juge?
Bon, ils disent la procédure accélérée, bon, mais ça a dû le même temps, hein, mais peut-être que c'est des noms qu'ils donnent. Sinon, la procédure accélérée, la procédure normale, ce qui fait la différence est que la procédure accélérée, c'est un seul juge qui t'écoute.
Oui, oui. D'accord.
Mais la procédure normale, il y a quatre ou trois juges.
Oui, mais je me demandais pourquoi toi, tu avais une procédure accélérée et pas une procédure normale. Tu ne sais pas de...
D'accord. Ça, je ne sais pas.
D'accord, mais c'est intéressant de savoir qu'il y a deux procédures différentes.
Deux procédures différentes, oui.
Fatigue pas quand on y va mollo. Y'avait beaucoup de moulins, mais c'est pas du gâteau. Y'avait beaucoup de dollars, mais c'était pas cadeau. Là où y'a le cœur, la raison ne parle pas. Il voyait ailleurs, tu ne voyais que lui. Ah, tout le temps, et ça t'a supporté. Ah, et pourtant, je t'avais bien parlé. La petite le mène par le bout du nez. Et quand elle dit bébé, il se sent rajeuni. Des fois il trime, ah, il trime, ah, il trime juste pour un bisou. La dans le plume, elle met dans le film. Elle voyage avec son esprit. Là où il y a le cœur, la raison ne parle pas. Elle voyait ailleurs, lui il ne voyait qu'elle. Ah, tout le temps, et ça t'a supporté. Ah, et pourtant, je t'avais bien parlé.
Depuis que tu vis ici, est-ce que tu peux raconter un peu comment ça s'est passé depuis que tu es arrivée à Épernay, ou même en France d'ailleurs, mais tu n'as pas dû rester peut-être très longtemps à Paris?
Non. Paris, j'ai fait une semaine.
Oui.
Après une semaine, je suis allée à Nancy.
Une semaine, tu es restée à Nancy?
Non, j'ai fait une semaine en France pour les démarches, pour la demande. Je suis allée à Terre d'Asile. Ils m'ont donné un rendez-vous de 3 jours. Bon, j'avais déjà fait... 4 jours, donc après les 3 jours, ils m'ont donné la réponse pour dire que je devais aller à Nancy pour aller pour un mois, pour aller au 115 pour un mois.
Donc, et après?
Et après, à Nancy, bon, c'était bien, j'étais bien accueillant, bon. J'ai trouvé que là-bas, c'est bien parce que tous on parlait français, les assistants étaient bien, vraiment. C'était bien. Donc, oui. Le mois que j'ai passé là-bas, vraiment, j'étais tranquille, quoi.
Oui.
Et de Nancy, quand je suis arrivée aussi à Épernay, dans le foyer, je peux dire qu'il y a toutes les nationalités. Il y avait des Ivoiriens, des Maliens, bon, à peu près toutes les nationalités. Des Afghans. Mm-hmm. Bon, là-bas aussi, bon. Moi, pour moi, ça allait parce que moi, je sais vivre avec les gens. Donc, donc moi, ça allait. Je n'ai pas eu de problème avec les voisins, non. Ça allait. Les assistants étaient bien gentils avec moi. Bon.
Pourquoi tu as dû partir de Nancy? Tu ne pouvais pas rester à Nancy?
Non, Nancy, c'est que pour un mois à 115, en attendant qu'on trouve un foyer où rester pour la procédure.
D'accord.
Non, c'était que après un mois, on te trouve un endroit où tu dois rester pour le reste du temps, quoi.
D'accord. Ouais. Et quand tu es arrivé à Épernay, alors comment ça s'est passé tes journées?
Oui, quand je suis arrivé à Épernay, bon, c'est toujours comme ça. Les premiers jours, ça n'allait pas. Mais après le premier mois, bon, j'ai commencé à m'adapter, j'ai commencé à m'habituer à l'endroit. Mm-hmm. Et bon... Non, ça va, ça allait. Seulement que j'étais stressée par rapport au papier. Sinon, si c'est l'environnement, ça allait. J'avais ma chambre tranquille. On avait que la cuisine ensemble, les toilettes. Bon, on avait tout ensemble, mais bon, j'ai géré ça comme ça parce que je n'avais pas le choix, en fait.
Et alors après, qu'est-ce que tu as fait durant tes journées?
Vu qu'on ne pouvait pas travailler parce que je n'avais pas de papier, donc je faisais le bénévolat à la Croix-Rouge, mm-hmm, pendant les 2 ans. J'ai fait le bénévolat à la Croix-Rouge et j'ai fait aussi le bénévolat à Secours catholique.
D'accord, c'était quoi comme mission bénévole?
Bon, à la Croix-Rouge, on faisait les tri des vêtements, on mettait en boutique et on revendait à un petit prix.
Oui.
Bon, pour ceux qui n'avaient pas les moyens, je faisais ça dans mes journées. Et aussi à Secours catholique, on allait aussi pour aider. Il y a des gens qui venaient qui ne pouvaient pas parler français. On aidait aussi les bénévoles qui étaient là-bas. J'ai suivi aussi un peu de cours d'informatique là-bas. Donc, j'ai fait ça de mes journées.
Ah oui?
Dans la semaine, il y avait des jours où je partais à Secours catholique, des journées où je partais aussi à la Croix-Rouge. Donc,
c'est ce que je faisais. Oui, donc tu avais des journées bien occupées.
Et oui.
Tu t'es fait des amis?
Oui, bien sûr. Et vu que j'étais trop stressée, j'avais des crises d'angoisse, donc je partais aussi à la CNP.
Tous ces sigles.
Je partais aussi à la CNP, là-bas aussi il y avait des activités. Et je partais le mercredi à des activités de création.
Alors CMP, c'est NP ou c'est...
CNP.
Qu'est-ce que c'est, tu peux nous expliquer?
Bon, c'est une association là où on aide ceux qui font des crises, soit d'angoisse.
C'est un centre de
stressé.
Soins? Centre médico-psychologique.
Voilà. Donc, je partais là-bas. Il y a une dame qui me suivait là-bas, en fait. J'avais une psychologue qui me suivait, donc je partais là-bas. Les mercredis, on avait des activités qu'on faisait là-bas. Mm-hmm. On faisait des broderies, diamants, du tricotage. On faisait plein de choses.
D'accord. Tu as fait ça pendant 2 ans?
Oui, j'ai fait ça pendant 1 an, 2 mois. Un an,
d'accord.
Deux mois, oui, avec eux.
Pour calmer un peu tes crises.
Oui.
Ça t'a fait du bien?
Ça m'a fait du bien. J'ai appris beaucoup de choses là-bas.
Ah, mais c'est bien.
Ouais.
D'accord. Oui.
Donc, c'est comme ça que j'occupais mes journées.
D'accord. Oui. Tu as pris des cours de français aussi, non?
Oui, bien sûr.
J'ai cru que tu en parlerais toi-même. Alors que tu parles très très bien quand même, Martial. Pourquoi tu as pris des cours de... Tu as eu envie de prendre des cours de français? Parce que quand tu es arrivé, tu parlais déjà bien le français à la Côte d'Ivoire.
Oui, je parlais déjà bien le français, mais bon.
C'était plus pour l'écrit?
Plus pour l'écrit, et puis bon... un peu me rappeler les conjugaisons, la manière de parler.
Ouais, la grammaire.
Enfin, la grammaire, pouvoir s'exprimer. Quand tu es... On a appelé à les postuler dans des trucs pour aller travailler.
Oui.
Et quand tu ne peux pas écrire, c'est compliqué. Bon, soit tu peux écrire, mais si tu ne peux pas bien classer, donc tout ça, il fallait apprendre.
Oui.
Donc je parlais déjà, mais il fallait apprendre. Donc je suis venue, j'ai fait 2 ans. 2 ans, la première année, j'ai passé le A2, mm-hmm, avec Madame Marielle. Ça s'est bien passé, j'ai réussi à mon examen.
Oui.
L'année suivante, j'ai continué pour passer aussi le B1. Et Dieu merci, ça a marché. Et vraiment, je suis vraiment heureuse, ça m'a fait du bien. Le coup des Français, vraiment, ça m'a fait du bien. Ça fait qu'aujourd'hui, je peux facilement aller dans des endroits, m'exprimer devant les gens. Et bon, ça m'a fait du bien.
Bon, bah, tant mieux. Oui, c'était... Tu as bien... Oui, félicitations, tu as bien travaillé.
Merci.
Et donc, maintenant, tu travailles, tu disais tout à l'heure, au
oui,
départ. Oui, tu as trouvé un travail...
Bon, non, c'est pas ce que je voulais faire, mais pour ne pas rester à la maison, j'ai cherché dans un peu de tout ce que mm-hmm. je pouvais avoir pour que je puisse travailler. J'ai eu, depuis le 6 mai, j'ai commencé à travailler à Mouette et Chandon comme agent d'entretien.
Oui.
Je travaille aussi à Mercier. Bon. Mais depuis le 13, le contrat a pris fin.
D'accord.
Donc, en ce moment, je ne travaille pas.
D'accord.
Je suis encore à la recherche.
Tu cherches dans quel domaine?
Bon, pour le moment, je cherche dans tout parce que je veux faire une formation d'aide-soignante.
D'accord.
Mais je me suis inscrite à la formation à Chalon, mais ça a causé problème parce que ça coïncidait avec mon déménagement sur le permis. Je devais avoir une nouvelle adresse et que je n'étais pas véhiculée. Donc, on dit comme je n'avais pas le permis, ils ne m'ont pas retenu.
D'accord.
Voilà, donc, je dois demander sur Épernay pour la formation. Mais en attendant, je dois travailler parce que j'ai un nouvel appartement que je dois payer, le loyer. Donc,
oui.
Pour le moment, j'attends d'abord, travailler un peu d'abord. Après,
pour avoir suffisamment d'argent.
Voilà, faire la formation après.
D'accord.
Oui.
Qu'est-ce que, en loisir, qu'est-ce que tu aimes bien faire quand tu as du temps un peu pour toi?
Quand j'ai un peu de temps pour moi, j'aime beaucoup écrire et je lis beaucoup.
Oui.
Ça. J'ai même fait j'ai participé au concours du Festival de l'écrit 2023, j'ai été la lauréate. En 2024, j'ai été encore la lauréate. L'année dernière, je n'ai pas donné mon histoire à temps, donc je n'ai pas participé.
Mm-hmm.
Donc maintenant, je lis beaucoup.
Festival de l'écrit, tu peux expliquer un peu ce que c'est?
Bon, le Festival de l'écrit, c'est qu'on écrit, chacun écrit une histoire et on amène ça... Là, au canopé,
ouais,
au canopé de Reims.
Ouais.
Et là-bas, on fait des tirages au sort, on étudie les tests, on fait des tirages au sort. Et ils retiennent les tests qu'ils veulent.
D'accord.
Il y a
un jury
jury.
Un jury dans le Festival de l'écrit.
Oui, oui.
Et ils votent le meilleur texte.
Voilà.
D'accord.
Et si ton test a été retenu, on t'appelle pour te dire que tu as été la lauréate. Et puis après, c'est la remise des diplômes. Nous donnons des livres dans lesquels il y a...
Oui, à la fin, ils font un recueil, un petit livret avec tous les textes.
Oui, un petit livret, textes.
D'accord.
Oui.
Donc, tu lis et tu écris.
J'écris, oui.
Tu vois les amis un petit peu.
Oui,
tu...
je sors un peu. Bon, pas trop.
D'accord.
Oui.
Est-ce que tu as des souhaits en particulier pour l'avenir?
Oui. J'ai des souhaits. Je souhaitais faire venir mes deux filles ici, auprès de moi, parce que ça fait déjà... Ça fait déjà 9 ans que je n'ai pas encore vu mes enfants.
Oui.
Depuis que j'ai quitté la Côte d'Ivoire, donc mon souhait, c'est de faire venir les enfants d'abord.
Tu as 2 filles et 2 garçons?
Un garçon, 3 filles.
Un garçon, 3 filles.
La deuxième fille, elle est mariée, elle est avec son mari. Donc. Mais les deux petites, je souhaite qu'elles viennent me rejoindre.
Tu peux dire quel âge elles ont, les deux petites?
Et la dernière a 16 ans
mm-hmm.
et l'autre a 23 ans.
D'accord.
Oui. Donc mon souhait, c'est de faire venir mes enfants, avoir un bon travail. Et surtout, passer mon permis.
Ce serait quoi? Oui.
Le permis, ça m'effraie en ce moment parce que quand je dépose les CV partout, tu n'as pas de permis. Pour l'aide à domicile, auxiliaire de vie, parce que c'est ce que j'ai fait aussi en Tunisie. Donc, c'est ce que je veux faire ici pour le moment, mais je n'ai pas de permis. Donc, ça m'est vraiment frein. Ça me bloque beaucoup.
Oui, sans permis, c'est un peu compliqué.
Quand je dépose, non, vous n'avez pas de permis. Donc, en souhait, je voulais passer mon permis parce que ça va m'aider. Avoir du travail facilement.
Ça, c'est vraiment un travail que tu aimes bien que...
Oui, oui.
Et quand tu étais en Côte d'Ivoire, tu pouvais travailler ou...
Oui, en Côte d'Ivoire, au début, quand le père des enfants était... Bon, au début, j'ai quitté le foyer. J'ai quitté mon mari parce que ça n'allait pas.
Mm-hmm.
Et là-bas aussi, on peut prendre des gens à l'hôpital, on vous forme sur place, aide-soignante pour aider. Donc, j'ai fait ça un peu en Côte d'Ivoire.
D'accord.
Donc, quand je suis arrivée en Tunisie, bon, et qu'il y avait des opportunités pour le faire, je faisais aider les personnes âgées là-bas.
D'accord. Donc, dans l'idéal, tu aimerais bien continuer à faire ça en France, mais il faut faire une formation.
Oui, il faut faire une formation. Ouais. La formation, je me suis inscrite, mais le problème des permis a mis frein, donc je n'ai pas pu.
Ça dure combien de temps, la formation?
Ils ont dit 8 mois.
D'accord.
Oui. Mais bon. Après, je vais encore m'inscrire pour voir.
Donc, oui, formation, permis de conduire et ramener les deux filles.
Les deux filles, oui.
D'accord.
Savoir sourire à une inconnue qui passe, n'en garder aucune trace, sinon celle du plaisir. Savoir aimer sans rien attendre en retour, ni égard ni grand amour, pas même l'espoir d'être aimé, mais savoir donner. Donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre, s'en aller. Goûter à ce plein bonheur qu'on vous donne comme par erreur, dont on ne l'attendait plus. Se voir y croire pour tromper la peur du vide, ancré comme autant de rides qui ternissent les miroirs. Savoir donner. Donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre, et s'en aller. Savoir souffrir. Silence sans murmure, ni défense ni armure, souffrir à vouloir mourir, se relever comme on renaît de ses cendres, avec tant d'amour à revendre, qu'on tire un trait sur le passé, mais savoir donner. Donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre, et s'en aller. Apprendre à rêver. Rêver pour deux, rien qu'en fermant les yeux, et savoir donner. Donner sans rature, ni demi-mesure, apprendre à rester. Vouloir jusqu'au bout, rester malgré tout, apprendre à aimer, s'en aller.
Et avant de vivre ici, quelle image tu avais de la France avant d'arriver en France? Est-ce que tu avais une image particulière de la France et des Français?
Étant en Côte d'Ivoire, moi j'ai toujours aimé la France parce que Et en Côte d'Ivoire, j'étais dans une église baptiste qui était dirigée par des Français. Donc, il y avait des femmes aussi. J'aimais beaucoup les Français. Je disais, quand j'étais petite, je disais toujours, quand moi je vais grandir, je vais aller en France. Je vais devenir médecin, je vais aller en France. C'est ce que je disais à ma mère toutefois.
D'accord.
Donc, quand je suis venue en France, elle m'a appelée et me dit, enfin, tu es arrivée en France. Donc, vraiment, depuis la Côte d'Ivoire, moi, j'aimais la France. Quand on me disait, ton pays, tu veux aller dans quel pays? Toujours, tout le temps, je disais, je veux aller en France.
Et tu sais pourquoi?
Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai aimé la France comme ça.
D'accord.
Ouais.
Et maintenant que tu vis ici, t'aimes toujours autant la France?
Oui, ça va, pour le moment, ça va.
Quand tu es arrivée, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise? Qu'est-ce qui t'a le plus surpris?
Bon.
Positivement ou négativement, hein?
Quand je suis arrivée, bon, comme je n'ai pas trop duré en France, ben, quand je suis allée à Nancy, de Nancy, je suis revenue sur Paris avec une amie. Elle m'a amenée à la Tour Eiffel pour la première fois.
Ah. Enfin,
c'était la nuit, j'ai vu la Tour Eiffel. Et le lendemain, on allait dans la journée, je ne me retrouvais pas. J'ai dit, mais c'est ça qu'on a vu là. La nuit, ça a changé.
Ah oui, c'était plus la nuit, c'était le jour,
c'était
donc t'as
le
pas
jour,
reconnu.
Donc, j'ai pas reconnu, mais bon, c'était bien. Et puis aussi, j'ai visité beaucoup de monuments ici. Étant au foyer, avec la maison pour tous, on avait des sorties souvent. On partait à Paris pour visiter les monuments. On a visité le Louvre, on a visité la Tour Eiffel, on est allé à l'Assemblée nationale, je pense.
Mm-hmm.
On a fait plus de 10 monuments, je pense, mais j'ai oublié.
10 monuments à Paris.
On est allé au Panthéon.
Oui.
On est allé
au Jardin du Luxembourg.
Au Jardin du Luxembourg, oui. C'est là qu'on a pris le repas du midi, au Jardin du Luxembourg. Et on a visité pas mal de monuments, vraiment. C'était bien. En tout cas, mon séjour au foyer, j'étais bien encadrée, donc.
Oui.
J'ai tenu que des choses positives.
Et bien, ouais, parce que donc, c'est le foyer, c'est Adoma et la maison pour
la
tous
maison
qui organisaient des sorties.
Oui.
D'accord.
On organisait les sorties.
Tous ceux qui vivaient au foyer pouvaient faire les sorties
Bon, c'était pas tout le monde. À la maison pour tous, c'est ceux qui plus suivaient les cours de français.
D'accord.
Qui faisaient ça. On a fait une sortie aussi à la mer, au nord de la France.
À la mer?
À 6h d'Épernay.
D'accord.
Ah oui, avec la maison pour tous.
Tu sais où est-ce que vous allez? Dans quelle ville vous êtes allé?
Ils ont dit le nord. J'ai oublié.
Mer du Nord?
C'était au nord de la France. Ils ont dit Saint-Martin, Saint-Martin. Non.
Saint-Malo? Non, c'est pas 6 heures.
C'était au nord. En même temps, c'était loin. C'était loin.
D'accord.
Ouais. Donc vraiment.
Une journée à la mer. Oui. En été?
Oui, on était, oui.
Pour se mettre les pieds dans l'eau et
on
se baigner.
On s'est baigné.
C'est vrai?
J'ai même pris des photos, oui. On s'est baigné à la mer. On est resté là, on est revenu vers 6 heures du soir. C'était bien.
D'accord.
On a eu plusieurs sorties.
Et il y a d'autres villes ou d'autres endroits que tu as visités en France?
Bon. Non.
Non.
On est à la mer, à Paris. Tous les endroits, c'était surtout sur Paris.
D'accord.
C'était surtout sur Paris.
Maintenant que tu vis ici, qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu aimes le moins?
Moi, Épernay, j'aime la ville parce que, bon, ici, les gens... Moi, pour moi...
Oui.
Les gens parce que d'autres, ils peuvent dire autre chose, mais moi, pour moi, les gens sont
accueillants. C'est ton avis que je veux.
Ils sont accueillants parce qu'à la Croix où je travaille qu'avec des blanches.
Oui.
Mais elles m'aiment bien, je suis vraiment entourée. Dans toutes les structures où je suis passée, en tout cas, tout va bien.
Oui.
C'est pour ça que je préfère rester à Épernay.
D'accord.
Ouais.
Tu préfères Épernay à Chalon?
Oui. Chalon, c'est un peu... c'est un peu compliqué à Chalon.
Et qu'est-ce que tu aimes le moins en France? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'aimes pas trop? Parce que tu me dis la France. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas trop en France?
Bon...
C'est pas forcément évident comme question.
Je vois pas complètement. Après, ça va venir après, mais complètement. Comme si tu restes au foyer, donc je ne connais pas d'abord la vie réelle de la France. C'est maintenant que je vais commencer. Donc,
oui.
Moi, je ne sais pas.
D'accord. Est-ce que tu as goûté des plats traditionnels français?
Non.
Non, pas plus que ça?
Non.
C'est quoi les plats traditionnels ivoiriens?
Ivoiriens, il y en a plein de plats traditionnels. Il y a le riz avec des sauces, la sauce cacahuète, que souvent les Blancs aussi appellent le mafé, parce qu'ils ont retenu le nom sénégalais. Les gens, ils aiment bien ça, le mafé avec du riz. Il y a du foutou avec la sauce graine.
Oui.
Il y a la tiéké avec le poisson. Il y a plusieurs repas traditionnels.
D'accord.
Il y en a plein.
Toi, tu cuisines régulièrement? Tu aimes bien cuisiner?
Oui, j'aime bien cuisiner. Ouais.
D'accord. Mais la nourriture française, non, pas plus que ça?
Bon, peut-être que je n'ai pas encore eu l'occasion de goûter.
Oui. Ouais.
Sinon, si j'ai l'occasion, je vais goûter.
Est-ce que tu as découvert des choses en France qui n'existaient pas en Côte d'Ivoire?
Oui, plusieurs choses.
Lesquelles? Ouais.
Par exemple, en France et en Côte d'Ivoire, la femme n'a pas droit à la parole. Dans un foyer, la femme n'a pas droit à la parole. Quand l'on parle, c'est ça. Que tu sois d'accord ou pas, c'est ça.
D'accord.
Mais ici, en France, c'est tout à fait le contraire. La femme a droit à la parole, elle peut aussi s'exprimer pour qu'on l'écoute.
Oui.
Ouais, ça, c'est une grande différence par rapport à la Côte d'Ivoire. À la Côte d'Ivoire, une femme dans le foyer, tu es là, tu es dans le foyer. Souvent, dans d'autres foyers, la femme ne doit pas travailler, elle reste au foyer pour s'occuper de la maison, tout, tout, tout. Ici, c'est le contraire. Les femmes travaillent, les femmes s'expriment. Bon. En tout cas, c'est une grande différence. Ouais. Oui, j'aime ça.
Et c'est quoi les autres différences, tu dirais, entre si on comparait la France et la Côte d'Ivoire? Est-ce que tu pourrais dire un peu ce qui ressemble et les choses qui...
Ce qui ressemble, je ne vois pas. Ici.
Et les choses qui sont totalement différentes?
Bon, qu'est-ce que...
Déjà, y a, dans les choses qui ressemblent, il y a la langue.
Oui, la langue. Tout le monde parle français en Côte d'Ivoire.
C'est quoi les autres langues qui sont parlées en Côte d'Ivoire?
En Côte d'Ivoire, on a jusqu'à 65 langues qui sont parlées.
Ah oui, ouais. 65?
Oui, 65 langues. Mais tout le monde parle français.
D'accord.
Et après, chacun parle sa langue.
Oui.
Parce que...
Après, mais la langue c'est des dialectes,
oui,
c'est ça
mais,
que tu veux dire?
Oui, mais maintenant, la langue française est plus parlée. D'autres même sont... Ils vivent en Côte d'Ivoire, mais leur propre langue ne peut pas.
D'accord.
Les enfants ne parlent que français.
D'accord.
Ceux qui sont dans les grandes villes, soit Abidjan comme ça, les enfants qui sont là, qui peuvent être malinqués, mais ils ne savent pas ce que c'est. Bon.
Ils ne parlent pas le malinqué.
Non, ils parlent français.
D'accord.
Tu ne dis pas le malinqué, ils te répondent, ils te disent, je ne comprends pas.
Oui.
Donc la langue française est plus parlée.
Toi, tu as appris, quand tu étais petite, tu as appris le français.
Oui.
Ta langue maternelle, c'est le français?
Non, non.
C'est le?
Le bété.
Le bété.
Oui.
D'accord.
Les enfants, donc nous, chez nous à la maison, on parle les deux. Le
D'accord.
français plus le bété.
Et tes enfants aussi, ils parlent...
Oui, ils parlent bété aussi, oui. Mais ils parlent plus français. La dernière, elle ne parle pas bété. Elle ne comprend même pas.
D'accord.
Oui.
Donc, dans les choses qui ressemblent entre la France et la Côte d'Ivoire, il y a la langue.
La langue.
Est-ce qu'il y a d'autres choses, tu dirais, au niveau de la société qui sont un peu pareilles ou c'est vraiment très, très différent?
Très différent, très, très différent.
Oui, tu peux expliquer un petit peu les différentes choses?
Par exemple, le droit de l'homme, il n'y en a pas. Et ici, au moins, il y a des mutuelles pour s'occuper de la santé des gens. En Côte d'Ivoire, si tu n'as pas l'argent, tu meurs. Parce que tu vois, même étant malade, si tu n'as pas l'argent, on ne s'occupe pas de toi. Ça seulement, ça, c'est une grande différence. Ça fait la différence. En France, ici, au moins, on peut te soigner. Même si tu dois payer après, mais ils vont te soigner. Mais en Côte d'Ivoire, tant que tu n'as pas déposé l'argent, on ne te soigne pas. Les accouchements sont très difficiles là-bas parce qu'il n'y a pas de suivi. Et il y a trop de différences, sincèrement.
Est-ce que tu peux en donner d'autres?
Oui, bon. Il y a quoi encore?
Au niveau de l'éducation, comment ça se passe, par exemple?
Au niveau de l'éducation,
ouais.
Là-bas, les cours sont payants. Tout est payant.
L'école, elle est payante?
L'école est payante, là-bas.
D'accord.
Oui, l'école est payante. Puis bon, là-bas, avec les coutumes, on dit souvent que ce n'est pas la peine de mettre une femme à l'école. Donc, beaucoup de filles ne sont pas scolarisées.
Mm-hmm.
Ça aussi, c'est dommage parce que il y a des femmes qui deviennent présidentes.
Eh oui.
Ouais. Mais bon, nous, on a eu peut-être un peu de chance. On est parti un peu à l'école parce que, en son temps, moi, ce qui a fait que je suis allée à l'école et... Le monsieur qui devait m'épouser, on dit que j'étais encore toute petite et son père a pris l'engagement de me scolariser.
D'accord.
Donc c'est pour ça que moi je suis partie à l'école jusqu'en quatrième. Et puis bon, à 14 ans, J'ai été donnée en mariage. Donc, dès 14 ans, j'ai arrêté les cours.
D'accord. Ouais. Au niveau du travail, est-ce que tu peux parler un peu de comment ça se passe en Côte d'Ivoire ? Le marché de l'emploi, comme on dit ?
En Côte d'Ivoire, c'est plutôt un peu compliqué. Il y a des élèves qui ont... D'autres ont des diplômes, mais ils n'arrivent pas à avoir le travail. C'est difficile pour travailler, c'est compliqué vraiment. D'autres ont des BTS, et puis après, ils sont là comme ça, pas de travail.
Il y a beaucoup de chômage ?
Beaucoup, beaucoup, beaucoup de chômage. Beaucoup. Moi, mon fils, même, il a le BTS, mais jusqu'à présent, il ne travaille pas.
Et un BTS en quelle...
En communication.
Communication.
Oui.
Donc, les gens font des petits boulots, des ou petits même boulots. Les petits boulots, c'est
oui.
compliqué
Alors
ou...
que le BTS, même, il fait... Il a eu d'abord le BTS en communication. Ça n'allait pas. Il allait dans une grande école encore. Mm-hmm. Il allait en comptabilité. Mais bon... Jusqu'à présent, pas de travail. Donc, il a fait un petit magasin où il met les ordinateurs, les téléphones, et puis il commercialise parce qu'il n'y a pas de travail.
D'accord.
Oui.
Et au niveau des repas, comment ça se passe ?
Les repas ?
Oui. Vous mangez quatre fois par jour, on mange quatre fois par jour.
Trois fois par jour,
matin, midi et soir.
Oui. Mais ce n'est pas dans toutes les familles, par contre.
C'est pas dans toutes les familles.
Ceux qui ont les moyens mangent matin, midi, soir. S'il n'y en a pas, vous mangez chaque soir ou le matin, matin et soir. Pour ceux qui vont dans les champs, le matin, ils mangent, ils vont dans les champs, ça, le soir, ils reviennent pour faire la cuisine. Donc,
ouais.
Ça dépend des moyens.
D'accord.
Ouais.
Et au niveau culturel ou artistique, est-ce qu'il y a beaucoup d'artistes, d'associations?
Oui. Il y a beaucoup d'artistes, et puis bon, je ne suis pas trop dans la culture, mais bon, il y a beaucoup d'artistes en Côte d'Ivoire.
Il y a des festivals de musique, de danse?
Des festivals, dans les villes, oui, souvent ils organisent des festivals, surtout pendant les vacances. Mmh. Les artistes qu'on invite dans des endroits, s'il y a des activités, des sorties, et les enfants, soit parce qu'ils font souvent des matchs inter-village dans les villes, mmh. On invite les artistes, et bon, c'est surtout pas dans les vacances.
D'accord.
Ouais, surtout pas dans les vacances.
Je me demandais quelles sont les habitudes typiques principales en Côte d'Ivoire ? Est-ce qu'il y a des habitudes particulières qu'il n'y a pas en France ? Tu sais, en France, par exemple, on fait la bise, on prend l'apéro.
Ça, il n'y en a pas en Côte d'Ivoire.
Ouais.
En Côte d'Ivoire, c'est pas tout le monde qui fait la bise. Supposons comme ça, un enfant va faire la bise à sa mère devant les parents. On dit, mais cet enfant, il est gâté. Comment tu peux faire la bise chez nous ? C'est qui pense qu'on peut faire la bise à son ami, à sa mère ou à son père ? Non, c'est D'accord. interdit.
Ok.
Ouais.
Il y a des habitudes particulières en Côte d'Ivoire ?
Bon, chez nous, on s'embrasse que de faire la bise.
D'accord.
On s'embrasse comme ça.
Et à part les embrassades, est-ce qu'il y a des habitudes typiques ? Tu dirais qu'il n'y a pas en France ?
Et puis, en Côte d'Ivoire aussi, on a l'habitude de manger ensemble dans un seul plat.
Oui.
Mais la nourriture dans un seul plat, les gens sont autour du plat et on mange.
Oui, c'est très convivial.
En France, on se sert dans les assiettes, non, chez nous.
Ouais.
On dépose le plat, tout le monde vient manger.
D'accord.
Voilà, ouais. C'est comme ça. Les enfants à part, les grandes personnes à part. Et on mange ensemble.
Ok.
Ça, c'est nos habitudes.
Et au niveau de la politique, tu peux dire un peu comment c'est en ce moment en Côte d'Ivoire ? Oh là là.
Ça, je ne sais rien de la politique de la Côte d'Ivoire. Ça.
D'accord.
Ouais. Parce que là... Je ne sais pas.
Tu n'as pas suivi, oui, tu as arrêté en arrivant, en partant, tu as quitté un peu.
Oui.
Est-ce que tu suis un peu les actualités ici en France ?
Sur la Côte d'Ivoire ?
Non, sur la France ?
Oui. Je suis un peu. En fait, la politique de la Côte d'Ivoire n'a rien à voir pour la France. Hein.
Oui, tu veux
nous,
en parler.
Nos présidents, quand ils sont élus, ils sont là pour la vie. Ils sont là pour la vie, ça n'a rien à voir avec pour la France.
Oui.
Donc, bon, on ne peut pas comparer, quoi.
Il y a des élections ?
En Côte d'Ivoire, en ce moment, on dit qu'ils avaient prévu des élections le 25 octobre, mais je ne sais pas si ça aura lieu, parce que depuis, là, il y a vraiment pas mal de mouvements là-bas. Donc, je ne sais pas si ça aura lieu, je ne sais pas.
Tes enfants, ils t'en parlent un petit peu?
Oui, ils m'appellent. Chaque fois, ils disent qu'il y a des gens qui sortent dans les rues, des gens qui, il y a des tirs, il y a des gens qui brûlent les pneus sur les routes. C'est vraiment compliqué pour sortir.
Ils habitent quelle ville, tes enfants?
Moi, mes enfants, ils sont en Gagnoa, à l'intérieur du pays. Gagnoa.
Gagnoa.
Oui, ce n'est pas la capitale.
D'accord.
Abidjan est la capitale.
Oui.
Mais ils ne sont pas la capitale. Mais dans les, même dans les petites villes, c'est la même chose, quoi.
C'est compliqué.
Oui, il y a des groupes de personnes qui sortent comme ça dans la nuit, ils cassent les magasins, ils brûlent les trucs. Bon, en tout cas, le pays est mouvementé en ce moment parce, grâce aux élections. Parce qu'ils disent que le président veut faire un quatrième mandat, les gens refusent, donc bon, c'est compliqué.
Mais il y a des manifestations, des révoltes.
Tout le temps. Oui, des révoltes tout le temps.
Ouais.
Ouais. Donc, en ce moment, dans le pays, c'est compliqué. Compliqué de sortir, de voyager, c'est compliqué.
Est-ce que tu veux bien nous dire quelque chose en BT? Est-ce que tu veux, je ne sais pas, un proverbe ou une phrase à toi ou autre chose? Tu peux prendre le temps de réfléchir.
Un mot en BT.
Juste un mot? Non, une phrase. Ou je ne sais pas, un bout d'une chanson ou... Juste pour entendre la langue, c'est bien d'entendre les langues.
Mais proposez-moi quelque chose et je dis ça embêté. Si
est-ce que tu as un proverbe, par exemple? Il y a des proverbes embêtés, un dicton? Tu sais, une petite phrase comme en France par exemple, qui va à la chasse perd sa place, Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Tu connais ce genre de...
Oui,
après, ça peut être une petite phrase à toi, embêté, en expliquant ce que ça veut dire. Y a pas quelque chose que tu veux dire aux auditeurs, auditrices
Bon, embêté, je peux dire... Oui. Tout se mérite embêté.
Oui. Tout se mérite, ça c'est en français, mais
oui,
embêté.
Non, je vais dire ça embêté. C'est pas tellement lourd.
Ça fait longtemps que t'as pas parlé BT,
oui.
Peut-être.
Ouais. Non, tout se mérite, c'est trop lourd. Je peux dire... Dieu sauve celui qui veut. Mm-hmm. Embêté.
Oui.
Oh, wamu lago pour. Ça veut dire que quand tu veux, Dieu te sauve.
D'accord.
Oui.
Bon, ben merci beaucoup, Marcel.
Merci.
Merci beaucoup à toi d'avoir accepté de participer à cette interview. Merci beaucoup à Radio Primitive, Émilie, Gustine de m'aider à concrétiser ce projet. Merci beaucoup à la médiathèque Simone Veil à Épernay et sa directrice Marianne Fuss de nous accueillir dans ses locaux pour réaliser les enregistrements. Enfin, merci à vous, auditeurs, auditrices, qui avez eu la curiosité d'écouter ce podcast et rendez-vous le mois prochain.